préparé, pur, qui entre dans l'église et tu vois le regard de tout le monde, mais surtout le regard du mari, surtout le regard du jeune fiancé. Il n'a jamais vu la robe, hein, et il n'a pas vraiment vu son épouse toute maquillée, pas trop, mais vous voyez, il y a une beauté éclatante. Et tout d'un coup, il se tourne, il regarde, et c'est un moment magnifique. C'est à couper le souffle. Et nous, nous allons tous vivre ça, hein, quand Jésus revient pour son épouse, nous. Et il attend aussi, il dit, voilà, et nous, on porte une robe, mais c'est vraiment la robe de la grâce. On est embellis, on va porter, tout le monde ici, vous allez porter une robe blanche, alléluia. Il dit, oh, mais j'ai trop plié ma robe, c'est trop taché. Non, non, il repasse par là, il a repassé dans ma vie. Avec ce fer à repasser en forme de croix, on dit, voilà, j'enlève les plis. Et s'il le fait pour moi, je peux le faire pour les autres. Et aussi, il y a quelque chose qui brille sur le doigt de la fiancée. Et c'est une bague magnifique. Il y a premièrement la bague de la fiançaille. Et après, on met une bague de mariage. Mais ce qui m'a frappé, quand je voyais Stéphanie, l'épouse de David, oh, je voyais sa bague de fiançailles. Et c'était en or, et il y avait une seule pierre, un diamant, magnifique. Et donc, il y avait de l'or, et il y avait diamant. Et donc, qu'est-ce que c'est le plus important, l'or ou le diamant? Si je demande à Marilyn Monroe, elle va dire les diamants. Mais peut-être l'or, ça vaut plus qu'un diamant. On ne sait pas, ça dépend de la taille. Hein? Non, ça dépend. Ça dépend. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Moi, je dis, je veux les deux. Je veux les deux, parce que qu'est-ce que c'est un diamant tout seul sans être vraiment enchâssé, vraiment dans la bague? Et qu'est-ce que c'est l'or, si ce n'est pas embelli avec quelque chose qui brille un peu, qui capte le soleil. Et donc, je prends cette image pour partager avec vous une parole que j'ai reçue au début. Bon, ce n'est pas encore la rentrée, hein? Et donc c'est une sorte de pré-rentrée, parole pré-rentrée, mais qui m'a fait énormément du bien. Je médite cette parole depuis une semaine. Et donc, ça se trouve en Corinthiens. Premier épître de Corinthiens, ça commence chapitre 14. C'est juste un verset que je partage avec vous, mais c'est magnifique. Chapitre 14, 1 Corinthiens, verset 1. Recherchez l'amour. Recherchez l'amour. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est de l'or. Mais il y a un diamant aussi. Aspirez, aspirez aussi au don spirituel. Mais surtout à celui de la prophétie. Et là, vous avez deux choses. Vous avez, je dirais, le caractère de l'or. Il faut ça, il faut l'amour. Mais il y a aussi la brillance du diamant qui pète, qui brille. Et ça, c'est cet amour en action par le don du Saint-Esprit, par des manifestations, par des paroles surtout, par des paroles qui édifient, des paroles qui partagent la vie, la prophétie. Voilà, revenons un peu. Rechercher l'amour. Vous savez, le mot grec, c'est diako pour rechercher. Et c'est une image utilisée quelquefois pour celui qui va à la chasse. C'est pas, il n'y a pas beaucoup de chasseurs ici, je pense. Hein. Là où j'étais en vacances, il y avait des champs de chasse et on voyait qu'il y avait les gens, il y avait cinq chiens, ils partaient, tout équipés. Ils étaient actifs, quoi. Ils n'attendaient pas que le lapin vienne entrer chez eux et se mettre dans la casserole. Voilà. Allez, lapin, venez. Allez, livre-toi, lapin. Vous savez, l'amour de Jésus ne se livre pas facilement. Même si c'est gratuit, même si c'est donné, l'amour exige qu'on la cherche. Vous savez, une femme, elle aime bien être chassée un peu. Vous chassez un peu, quand même. Il faut pas... Et Jésus, pour vraiment développer une relation avec Jésus, il faut partir un peu à la chasse. Il faut être équipé. Il faut avoir une Bible. Il faut aimer la création. Il faut sourire de temps en temps. Il faut accueillir d'autres personnes. Il faut partir à la chasse dans la vie. Ce n'est pas être passive. Rechercher l'amour. Une église. C'est tout simple. Rechercher l'amour. Rechercher l'amour. Aspirer. C'est l'autre verbe, rechercher, mais aspirer. Et ça, c'est encore plus intéressant comme mot grec. Le mot est zoulou. Zoulou. On peut tous le dire ensemble. Allez, après toi. Un, deux, trois. Zoulou, zoulou. Dis deux fois. Zoulou, 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 zoulou. Vous savez, les mots hébraïques, ils ont ce qu'on appelle une tendance onomatopéique. Ça veut dire que le mot, le son, ça symbolise même l'objet. D'accord? Et donc, on dit encore zoulou, zoulou. Zoulou, 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 zoulou. C'est quoi, zoulou, 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 zoulou? Oui, un petit, oui, ça c'est un zoulou, oui. Mais en écoutant, c'est juste la créativité. Zoulou, zoulou, zoulou. Ça vous fait penser à quoi? Hein? Alléluia! Alléluia! Mais c'est l'eau, ça c'est super. C'est l'eau qui bouillit. Ça veut dire littéralement l'eau qui bouillit. Ça bouillonne. C'est beau la langue. C'est pas hébraïque, hein, pardon, c'était grec, hein, je devais dire. Hein. C'est onomatopique, c'est, je suis entre l'essai des Grecs et non. Voilà, mais zoulou, c'est. Voilà, c'est vraiment l'eau qui bouillit. Et donc, qu'il y ait quelque chose en nous qui bouillit, qui dit j'ai envie, je mets un peu de gaz. Vous savez, quelquefois, si... Est-ce que vous avez jamais essayé de chauffer l'eau au minimum du gaz? C'est une erreur, non? Et quelquefois, quand le climat spirituel est un peu bas, ça prend du temps. Allez, mais on augmente le gaz un peu. Allez, Saint-Esprit, viens, plus! Plus! Mais quand on fait un peu plus de chaleur... Et aussi la chaleur de nos relations, la confiance, l'encouragement, ça augmente la chaleur d'une église et ça nous aide à être plus bouillonnante en bouillonne. Et dans le psaume 45, 2, hein, c'est David qui parle, un homme bouillonnant. Et 45, 2, il dit... Mon cœur bouillonne de belles paroles. Amen. Et c'est bien d'être comme ça. Ça, c'est le propre du chrétien. C'est avant d'être chrétien, mon cœur bouillonnait de mauvaises paroles. C'est vrai. Je ne pouvais pas empêcher quelquefois de mauvaises paroles, des jugements, des blasphèmes qui sortaient de mon cœur. Ah, quelle horreur! Quand je pense à ça. Mais maintenant, je peux dire, voilà, merci Seigneur, parce que je reçois, le gaz est élevé, quelquefois on augmente le gaz dans ce qui chauffe mon cœur, et mon cœur bouillonne de belles paroles. Et donc, aspirez, aussi au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. Donc voilà, je commence avec ces deux verbes. Rechercher, c'est partir à la chasse, et aspirer, soyez bouillants. Allez, un peu plus de chaleur, de zèle. C'est aussi un mot, zélo, qui est lié à être zélé. Hein? Être zélé, être bouillonnante. Et donc, commençons un peu plus haut, hein? Rechercher l'amour. Et donc, il fait ça assez facile, parce qu'on n'a qu'à monter quelques versets sur la page de ma Bible, et je trouve l'amour à partir de verset 4 dans 1 Corinthiens 13. C'est bien de commencer là. Mais bien sûr, c'est beaucoup plus qu'une page imprimée, l'amour. C'est beaucoup plus qu'un passage biblique. C'est une personne. C'est une personne. Maintenant, en quelques versets, il nous décrit Jésus. Et nous, on a cette aspiration. On est à la recherche d'être conforme à l'image de Jésus. Je veux être plus comme toi, Seigneur. Tu sais, mon amour humain est tellement faible, tellement inconstant, tellement nul d'un côté, même si j'ai fait des efforts. Et donc j'ai besoin de recevoir ce cadeau d'amour qui est ta vie par la grâce qui est en moi et qui doit être travaillé jour après jour après jour. Et donc on découvre l'amour à partir du verset 4. Et c'est tellement défiant. C'est tellement défiant et tellement merveilleux. Verset 4, hein, 1 Corinthiens 13. Recherchez l'amour, d'accord, je l'ai trouvé. Est-ce que j'arrive à mettre ce lapin de l'amour dans ma marmite? Allez, l'amour est patient. Déjà là, parce que patient est encore un mot en grec qui est énorme. C'est makratoumia, c'est ça, makratoumia. Et ça veut dire littéralement, macro c'est long. Et toumia c'est une sorte de passion, c'est un sentiment. Mais ça veut dire, c'est comme la passion du Christ, c'est une souffrance. Donc d'un côté, patient, d'accord, mais c'est une longue souffrance. C'est quand vous êtes, dans l'administration française, prenez un ticket, la longue souffrance commence. Il y a les gens qui me disent, mais ça c'est une petite souffrance mais qui perdure, une longue souffrance. C'est ça que ça veut dire. Il faut avoir un souffle large pour endurer tout ça, patient. Mais c'est surtout dans les relations. La vie n'est pas facile. Les gens sont pas faciles. Même les chrétiens sont pas faciles. Donc il faut les supporter, il faut avoir le souffle long. Encore, je respire, je vais être patient, j'attends, je ne vais pas exploser, je vais être patient. L'amour est large, on a une capacité d'encaisser, une capacité de souffrir, de dire voilà, d'accord. Ça ne veut pas dire c'est pas grave, ça veut dire que j'encaisse. J'encaisse, jour après jour. Et quelquefois, il y a les gens qui encaissent dans certaines relations depuis des années. Et même sans que ça s'améliore. Et encore là, il faut être patient. Mais l'amour est patient, voilà. L'amour est patient. Qu'est-ce que Jésus a eu à la fin de sa vie? Il a encaissé, là. Il a été abandonné. Il n'était pas sur un trône. Il n'était pas accueilli. Il était crucifié, rejeté. Et c'est là où on voit la patience de Dieu. L'amour est patient. L'amour est serviable. Alléluia. Serviable. Ça, le service, c'est l'incarnation de l'amour. C'est la réalité de l'amour. Je t'aime. Voilà, merci pour tes paroles. Mais quand quelqu'un sert, le service, c'est l'incarnation, c'est la réalité de l'amour. Et donc, je remercie Dieu pour Didier, pour d'autres dans l'église. Rémi et d'autres, tout le monde qui nettoie, qui sert, qui incarne, qui sont serviables. Parce que ça, c'est une expression de l'amour. C'est pas que par des paroles. C'est pas que uniquement ceux qui ont la langue facile, mais c'est ceux qui ont les mains habiles aussi. C'est des choses qui aiment. L'amour est serviable. Il n'est pas... Voilà. C'est ce que l'amour est, mais ce que l'amour n'est pas. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Et le mot là, ça vient d'un mot grec perperos. Et le perperos, c'était le vantard. C'était en disant, lui, c'est un perperos. On peut dire perperos, je ne sais pas, il est de perros grec, je ne sais pas. Perperos. Mais c'est quelqu'un qui se vend, voilà, et qui, voilà, il n'y a rien, c'est que du bluff. L'amour n'est pas du bluff. L'amour n'est pas du bluff. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Ça, il y a des soufflets quelquefois pour faire allumer un feu. Et ça, c'est le mot qui est utilisé ici. L'amour n'est pas que de l'air qui fait beaucoup de flammes pour un moment, mais il n'y a rien de substantiel à brûler. Il n'y a rien de solide. Il n'y a pas de combustible. C'est que de l'air. Donc, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Et encore le mot là, c'est il n'est pas acerbé, littéralement. Ça veut dire il n'est pas susceptible. Les mots qui sont tellement piquants. Là, on n'ose pas même. Ah, on marche sur des œufs. Ce sont des chardons ardents. On dit, mais ah, j'ose pas toucher. Mais l'amour n'est pas comme ça. Parce qu'il est patient déjà, hein, on a déjà arrivé là. Il ne s'irrite pas. C'est difficile de gérer quelqu'un qui est toujours irrité. C'est très très difficile. Hein. Je pense que vous allez tomber de temps en temps sur de quelle personne est. C'est lourd. On est toujours sur nos gardes. Alors, il faut prier pour de telles personnes. Mais pourvu que moi, je ne sois pas comme ça. Seigneur, aide-moi. Si je suis toujours irrité, ces gens se trouvent souvent isolés parce que les gens, ils reçoivent tellement de piques qu'on se barricade et après, ils deviennent plus irrités. Une sorte de cercle infernal parce que les gens les invitent et vite parce qu'ils sont très susceptibles. Ils disent, oh, mais je suis isolé, personne ne me parle. Mais allez, sois un peu plus abordable. L'amour ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Alléluia. Alléluia. Et quand il dit il ne médite pas le mal, ça, je pense que je comprends comment c'est traduit en français. Mais il y a une autre traduction qui est mise en bas de la page. Il ne tient pas compte du mal. Et le mot là qui est utilisé, ça vient de logos, et le mot est logizomai. Logizomai, ça veut dire quelqu'un qui devait faire les comptes, il devait marquer, tu me dois ça, tu me dois ça, tu me dois ça. Le mot logos fait partie de toute cette activité, de dire voilà, tu me dois ça, tu me dois ça, tu me dois ça. Et il dit que l'amour ne tient pas compte de tout le mal que les gens ont fait. Là, c'est dur. C'est dur, n'est-ce pas? L'amour n'est pas en train de dire, tu sais, il y a 6 mois, tu m'as fait ça. Et c'est toujours dans mon petit calepin, là. Là, j'ai marqué en rouge, même je l'ai souligné 5 fois en rouge. Il a fait ça à tel moment. Mais là, il dit que l'amour ne garde pas des comptes. Ah, c'est dur, hein. Moi, je ne dis pas que c'est facile tout ce que je dis. Je ne pense pas que Jésus est dans le ciel en disant, voilà, tu sais, ces pharisiens, c'est ce qu'ils m'ont fait. Ah, je vais avoir ma revanche. Tu imagines Jésus qui méditait ça sur la croix. Il avait oublié tout le mal, et ce Pierre qui m'a renié, ce Judas surtout, ah, je vais l'avoir, sa peau. Tu vois. Et tu vois, il est tout malheureux, tout frustré avec les anges, ils font tout une barbecue, ils partent de là, tu vois, celui-là. Il ne faisait pas ça et il n'était pas blessé. Mais il faut être guéri pour faire. Il faut être guéri par l'amour. Ce n'est pas évident. Hein, c'est pas, voilà, mais on peut voir, si on est continuellement en train de faire les mêmes rêves sur des personnes, d'être toujours énervé, toujours des mêmes choses, mais il faut voir comment est-ce que je peux aller au-delà de ça. Et comme il dit, c'est l'amour, c'est la présence de Jésus, c'est un amour surnaturel. Et après, ça continue, verset 7, hein, et on a 3 choses, 4 choses que l'amour fait. Il pardonne tout. Wow. Ça, ça la solution. Et ce qui est dur là, c'est le mot tout. C'est pas en grec, P-A-S, pas, tout. Il pardonne tout, tout. Oh mais quand même, tu peux pas pardonner ça. Non mais il pardonne tout. Mais on pardonne pour être libre. On pardonne pour ne pas être deux fois victime. Pardonner, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des comptes à rendre avec la justice ou certaines choses. Hein, je dis. Mais c'est juste que ça ne nous assaillit pas tout le temps, qu'on soit libéré. Et le mot là, pardonner, c'est intéressant aussi en grec, c'est stego. Ça veut dire ça protège. Ça veut dire littéralement mettre à l'abri, construire un toit au-dessus de cette réalité. Et couvrir. Et là, ça nous fait penser à ce verset qui dit « L'amour couvre une multitude de péchés. » Parce que quand on pardonne, on protège la personne qui a péché contre nous. Souvent, il y a les gens, ils font des bêtises contre nous. Et quand on pardonne, on les protège d'une certaine manière. Au lieu de claironner ça partout, tu vois, tel et tel m'a fait ça. Et là, la personne est un peu vulnérable. Bon, j'excuse pas, hein, je sais, il y a les comptes à rendre pour la justice et tout ça, mais peut-être des petites choses dans une famille et tout ça, on peut passer sur certaines choses, pas besoin toujours de crier, d'exposer ou de faire ça d'une manière intime. Et le mot stego, ça parle d'une maison, de garder ça dans la maison quelquefois. Voilà, faire toute une histoire. Il dit que la langue quelquefois ça peut allumer un feu si on parle trop, si on parle. Ça allume un feu et après ça crée des dégâts. Mais si on pardonne, si on est sage, l'amour est très, très discret, je pense. Il pardonne tout, il croit tout. Allez, à la foi. Il n'y a pas l'incrédulité, il y a la foi. Et je dirais, l'incrédulité, c'est comme une terre aride. Il n'y a rien qui pousse. Parce que la terre, mais la foi, c'est comme une terre qui est bien arrosée. On peut planter des petites semences de la parole. Boum, ça pousse. Et on a un jardin d'Éden. Mais il y a des gens qui ont le cœur aride parce qu'ils ne croient pas. Tout est tellement mécanique. On a de la peine à croire. On a de la peine à croire que Jésus est ressuscité, qu'il est mort sur la croix pour nous pardonner. On a de la peine à croire qu'il nous aime. Vraiment. Ce n'est pas juste la théorie, c'est une réalité. C'est une foi qui accueille Des vérités de Dieu. Et l'amour croit tout. Il espère tout. Oh, j'aime ça. Il y a de l'espérance dans l'amour. Même si c'est dur, j'espère. Tu sais, il y a la boîte de Pandore pour ceux qui étudient les mythologies grecques, qui ne sont pas tellement conseillées, mais quand même. Et il y avait tous les démons qui sont partis de la boîte de Pandore, les choses horribles. Mais et la pauvre Pandore a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? J'ai ouvert la boîte, tout est parti. Le monde est infecté, tout ça. Qu'est-ce que je vais faire? Il y avait un tout petit animal qui restait dans la boîte, qui sortait le dernier. Et je pense celui qui était avec Pandore a dit, ah, mais quand même, il y a un dernier qui doit sortir. Allez, oh, qu'est-ce que c'est ce dernier? Mais le dernier s'appelait l'espérance. Et il dit, c'est avec ce dernier que tu peux vaincre tous les autres. Bon, c'est la mythologie. Mais l'espérance, et peut-être même dans le ADN de nos cultures grecques, c'était cette espérance pour Christ qui allait venir nettoyer toutes ces boîtes de Pandore. Parce que c'est ce qu'il a fait sur la croix. Je dirais, la croix est plus forte que la boîte. Hein? La croix de Jésus est plus forte. Parce que, et c'est cette espérance qui est là. Et l'espérance, c'est une arme redoutable. Une arme redoutable contre la déprime, contre les menaces, contre l'inquiétude. L'espérance, j'espère. L'amour espère tout. Il supporte tout. Alléluia. On retrouve notre patience, mais c'est un autre mot. Hein. Mais c'est de persévérer, de continuer. Il supporte tout. L'amour ne succombe jamais. Voilà, il y a la victoire dans l'amour. Il y a la victoire. Et comme je dis, cet amour, c'est l'amour de Jésus. Ce n'est pas mon amour. Mais cet amour de Jésus, c'est aussi ma possibilité. Déjà pas encore. C'est aussi ma possibilité. Aspirer, rechercher l'amour. Je veux rechercher dans mon expérience cet amour-là. Que dans mon expérience, je pardonne. Que dans mon expérience, je sois patient. Ça, c'est la réalité d'être chrétien. Ce n'est pas en théorie. C'est en aimant. C'est ça. Et c'est ça le cadeau que Dieu nous donne par le Saint-Esprit. Oui. C'est l'amour de Dieu. Et dans nos cœurs, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est ça, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de l'amour de Jésus. Et c'est un amour surnaturel qui dépasse toutes les vilaines choses de ce monde, toutes nos imperfections. C'est un cadeau, c'est un miracle. Même de vivre ça un jour, c'est un miracle. Mais on est appelé à vivre ce miracle de l'amour. C'est cet amour qui nous transforme en or, qui nous donne une vie d'or. Voilà, qui forge notre caractère, qui enlève les impuretés. Et c'est ça, Dieu, il a fait l'homme pour être de l'or. Pour être à l'image de Dieu, voilà, l'amour est là. Ces trois choses demeurent. Et avant ça, il dit, il faut construire avec les pierres précieuses, avec de l'or, avec l'argent. Mais Dieu, il veut vraiment que notre caractère soit forgé, vraiment qu'on ait cet amour en nous. Mais il y a le diamant aussi, quelque chose qui brille. Donc, on ne peut pas avoir un don sans amour. Donc, il faut avoir le caractère bien forgé. Si quelqu'un dit, oh, mais je veux me vanter devant l'Église parce que j'ai beaucoup de dons du Saint-Esprit, je vais prophétiser. Ah, ça va, même ça, on peut même avoir un don qui est bien, qui fonctionne. Mais à long terme, ce n'est pas équilibré avec le caractère. Et c'est ça ce qui a déçu beaucoup d'anti-charismatiques, d'accord ? Il y a les gens qui ont un peu peur des dons du Saint-Esprit. Ils disent, oh, on a déjà donné avec ces dons du Saint-Esprit. On a eu de ça, j'ai été manipulé, j'ai eu tel et tel qui a pris la place et tout ça. Et donc les gens ont peur. Et c'est parce que quelquefois les dons du Saint-Esprit n'ont pas été en chassés dans l'amour, dans le caractère. Et donc ça enlève la peur. Quand tu sais que l'amour est là, ça nous donne un bon environnement pour pratiquer, pour aller plus loin dans les dons du Saint-Esprit, qui est aussi une expression de l'amour. Et donc, deuxième partie, aspirer aussi au don du Saint-Esprit. Et bon, il parle de beaucoup, hein, je ne vais pas faire toute une théorie sur les dons du Saint-Esprit, mais il y a les guérisons, prophéties, discernement, miracles, beaucoup de choses. Prier pour les malades, c'est super qu'on prie les uns les autres. Comment est-ce que vous allez savoir si vous avez un don de guérison? Bon, priez pour les malades. Et souvent, c'est les gens qui pensent qu'ils ont le moins ce don de guérison qui l'ont. Et les gens qui pensent qu'ils ont le plus, mais c'est bon. On peut tous prier pour les malades parce que c'est quelque chose que Jésus en nous nous donne. Tout le monde. Mais il y a certains qui ont ça d'une manière plus forte. C'est juste comme ça. Il y a d'autres qui parlent. Il y a d'autres qui servent. Il y a toutes sortes. Il y a une diversité de dons. Mais ici, ce que je veux appuyer, c'est il dit ici, cherchez surtout la prophétie. C'est quelque chose qui parle. Et je dirais, pas juste pour dimanche matin, mais dans vos familles, au travail. Il ne faut pas penser que c'est tout mystique tout le temps. C'est une parole. Est-ce que vos paroles sont prophétiques? J'aspire à être prophétique dans mes paroles. Quand je parle à quelqu'un, que mes paroles soient prophétiques. Parce que c'est très pratique ça, parce qu'on passe beaucoup de temps dans notre vie à parler, à utiliser notre langue. Et donc, la langue, ça peut détruire ou ça peut construire. Le pouvoir de la vie et de la mort est dans la langue. Et on passe beaucoup de temps à parler. Et donc, que ma parole soit imprégnée du sel, que j'ai un élément prophétique quand je parle. Moi, je parle tout le temps aux gens. Et souvent, les gens me disent, mais ce que tu m'as dit, ça m'a vraiment... Qu'est-ce que tu as? Ça m'a frappé. Tu as dit que ça m'a percé. Et je veux savoir plus. Et même, quelquefois, je parle de Jésus, mais quelquefois, je parle d'autre chose. Bon, c'est toujours un peu profond. C'est pas parler de, voilà, quel chapeau on porte. Bon, même si ça peut être intéressant, mais notre parole peut percer les cœurs. Et donc, la prophétie, je vous donne trois choses. D'accord? C'est tout simple. La prophétie n'est pas Madame Soleil. D'accord. Je vous dis, vous allez rencontrer un prince. Non. Ça ne veut pas dire que c'est complètement... On peut interpréter l'avenir. Mais la définition biblique de la prophétie, d'accord, c'est tout simple. Hein, il faut tourner la page et on trouve en verset 3, d'accord. Il dit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. C'est ça que je veux faire. Je veux parler aux hommes et aux femmes. Je veux dire des belles choses. Et il dit, il les édifie. D'accord ? Première chose. Édifie. Et là encore, le grec est utile. Parce que le mot est oikodomi. Oikos, c'est un peu... comment je te dire, c'est la maison, d'accord. Oikos, c'est un groupe, c'est une maison, c'est une tribu, c'est une famille, d'accord. Et donc nous avons tous des oikos, c'est des groupes où on est ensemble. Vous avez un oikos chez vous, vous allez rentrer à votre oikos pour manger un bon repas. Donc, et après le mot c'est domi, oikos domi, ça veut dire je construis ma maison. Je construis mes relations. Oui, c'est édifier, avoir une parole qui édifie. Donc, ça c'est en opposition avec des paroles qui démolissent. Est-ce que vous avez jamais été démoli par des paroles des gens? Personne, bien sûr. C'est le propre de l'homme, de vouloir démolir l'autre. Je suis mieux que toi. Ah, regarde-toi, t'es nul, blablabla. Quelquefois, on a eu une vie de démolition dans notre oikos. Si on ne voit pas la maison littérale, mais quelques familles sont démolies parce que tout le monde a des paroles de démolition. Et c'est pas étonnant que la famille soit démolie si tout le monde a un ministère de démolition. C'est affreux, mais c'est ce qui arrive. Les gens sont livrés à leur démolition mutuelle. Mais nous avons une bonne nouvelle. On dit, écoute, aspirez à avoir un autre langage en Jésus. Aspirez à la prophétie. Aspirez à l'édification. À l'édification. À une parole qui construit l'autre, qui embellit l'autre. Est-ce que c'est aussi difficile que ça? Peut-être pour certains, il faut un vrai miracle pour dire une parole positive. Mais ce n'est pas aussi difficile que ça. On n'a pas besoin de mentir, on a besoin de juste regarder et de voir ce qui est beau chez l'autre, ce qu'on peut dire quand on peut dire une chose positive. Mais dis-le, il y a les gens, ils sont toujours aux aguets, ils ne parlent jamais sauf pour critiquer. Affreux. Et ils ne peuvent pas dire un complément, ils sont là, ils parlent quand ça ne va pas. Bon, c'est un peu lourd à la langue. Et donc... C'est l'édification, la première signe. Si tu as une parole qui édifie, c'est bien. Moi, je suis contre les prophètes démolition. Ça, c'est l'Ancien Testament, d'accord? Jérémie, voilà, j'arrive, vous êtes tous des pécheurs. Vous avez connu ça, Kung Fu, Ancien Testament, prophétie. Ça a été accompli dans le Nouveau Testament. Ça, c'est pas ôté, il y a une vérité qui est dite, mais la vérité s'incarne. Il y a une réalité d'une personne qui s'appelle Jésus maintenant. Il y a une réalité d'une croix qui pardonne. Et donc, édification avant destruction. Donc ça, c'est biblique. Hein. Tu vois Paul, hein, voilà, la prophétie, c'est édifier. Après, il les exhorte. C'est la deuxième chose. Exhortation. Et le mot là, c'est paraclésis. Ça nous fait penser au paraclète. C'est le mot du Saint-Esprit. Celui qui encourage, c'est un appel. Littéralement, exhorter, ça veut dire être près de la personne pour les appeler. Vas-y, 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 c'est comme un coach. Vous savez, quand tu as un gars qui fait le marathon, peut-être il est sur son vélo, le Tour de France, quelquefois il y a un gars derrière sur son moto qui dit, vas-y, vas-y, continue, encore un kilomètre, encore un, encore un, encore un. Et, ah, oui, mais... Et c'est cette voix-là d'encouragement. C'est un appel tout près qui le pousse à terminer sa course. Et même, c'est, je dirais, la paraclésis, les prédicateurs, ils doivent avoir ça. Allez, c'est un encouragement. Allez, vas-y, on va y aller. Quelque chose qui n'est pas distant, Je ne sais pas si vous avez jamais eu des paroles distantes. C'est une parole là-bas, quelque part, et j'entends. Mais une parole qui est près, qui nous encourage, nos cœurs, qui nous touche. C'est ça ce que Dieu veut. Et c'est ça la prophétie. C'est quelque chose qui nous touche, qui nous exhorte, qui nous encourage à aller mieux. Exhorter. Et après, j'aime le dernier. Il y a trois choses. Ce qu'il dit, la prophétie, ça console. Alléluia. Console. On a besoin de ça. Il y a trop de blessures dans le monde. Hein. Qui n'a pas besoin de consolation? C'est la partie féminine de la prophétie. En moi-même, j'ai la partie féminine. Voilà, mon anima. C'est le vraiment de consoler les gens par une parole douce. Une parole qui guérit. On a tellement besoin de ça, même dans nos familles. C'est pas juste, je ne parle pas juste de dimanche matin ici. La maman qui dit un dernier mot à son enfant avant de le mettre au lit. Le papa qui dit bonjour à sa femme le matin avant d'aller au travail. Ça peut consoler, avoir une parole. On sait que ça ne va pas tellement, on est blessé. On dit, voilà, une parole de consolation. Et là encore, en grec, c'est paramoutia. Et para, c'est encore cette intimité. Intimité. Et moutia, c'est la parole. C'est le discours. C'est une parole intime, littéralement. Une parole intime qui console. Une parole qui est chuchotée au cœur. Qui est intime et qui guérit. Qui console. Et c'est bien d'avoir cette parole. C'est vraiment la parole de Jésus. C'est vraiment la parole que l'Église doit véhiculer. Cette parole qui réchauffe le cœur, qui dit voilà, je suis là, tu n'es pas seul. Et on doit avoir cette parole, ce n'est pas la théorie, on n'est pas là dans une sorte d'école de théologie, juste théorie, machin, mais on doit avoir cette consolation. Et c'est la parole que Dieu, parce que Dieu est prophétique quand il vous parle. Si nous voulons aspirer à avoir la prophétie, c'est parce que lui, il est prophétique. Quand il nous parle, il nous console. Cette parole nous console. La parole de Jésus nous console. La parole de Jésus nous exhorte. La parole de Jésus nous construit. Et à notre tour, nous pouvons aspirer à avoir des paroles qui bouillonnent de nos cœurs pour édifier l'Église. Donc, je pense que voilà, je veux encourager tout le monde dans leur domaine à aspirer aux dons spirituels. Même les dons que je n'ai pas mentionnés. Hein? Et surtout la prophétie. D'avoir cette parole qui construit. Et il dit plus loin, hein, peut-être verset 6, en toujours 1 Corinthiens 14, il parle dans l'assemblée, il dit, je veux apporter une parole utile. Il dit, je veux vous apporter une parole de révélation, de connaissance, de prophétie ou d'enseignement. Là, c'est une bonne palette. Il y a l'enseignement, il y a prophétie, que quoi les gens ils disent, voilà, Dieu me dit, oh, j'ai une image, c'est quelque chose, mais qui édifie quelqu'un. Et parole de connaissance, de révélation. Il y a une diversité de paroles dans l'assemblée pour édifier, à la maison, partout dans les rues. Apporter une parole significative. Et donc voilà, aspirez, ainsi donc frères et sœurs, aspirez à prophétiser. Dans cette partie d'enseignement de Paul, en verset 34, il dit que les femmes se taisent. Et donc, il faut vraiment apprendre ça culturellement, d'accord? Parce que c'est un peu bête. S'il passe tout son temps à dire, il faut prophétiser, il faut aimer, il faut vraiment aimer, il faut consoler, il faut faire, tu sais, il faut faire tout ça, et tout d'un coup, mais les femmes, allez, taisez-vous! Honnêtement, il y a des églises qui sont comme ça, on est amour, mais les femmes, taisez-vous! Mais ici, je veux dire que là, honnêtement, j'ai fait des recherches et tout, c'est culturel, pour l'époque et tout ça. C'est culturel, et donc, femmes, parlez, mais pas d'une manière pour démolir, pour édifier. Hommes, parlez, pas pour démolir, mais pour édifier. La seule qualification, c'est d'édifier. C'est de construire la maison, d'avoir des paroles de vie, des paroles qui nous encouragent. Et donc voilà, petit verset à méditer pour ce dimanche. Recherchez l'amour. Ah, on peut passer toute une vie là-dedans. Recherchez l'amour. Le lapin ne va pas sauter tout seul dans la casserole. D'accord ? Il faut aller rechercher l'amour. Et même littéralement, Marie, recherchez l'amour avec vos femmes de nouveau. Femmes, recherchez l'amour. Recherchez, oh bon, fais un effort. Et avec Jésus surtout, fais un effort. Recherchez l'amour, aspirez à la prophétie. Alléluia, merci Seigneur. C'est ce que nous voulons faire. Donne-nous la grâce de le faire, Seigneur. Remplis-nous du Saint-Esprit. Seigneur, que ta parole véhicule le Saint-Esprit sur nous aujourd'hui. Et Seigneur, que nous soyons tous à la recherche, pas du temps perdu, mais à la recherche, Seigneur, de l'amour, Seigneur, à la personne de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci. J'ai trouvé l'amour en toi et je veux plus. Je veux grandir encore dans cet amour. Et j'aspire encore, Seigneur, à avoir des paroles qui édifient ma maison, Seigneur, qui édifient l'Église. Et je te demande de bénir mes frères et mes sœurs, de leur donner, que leur cœur bouillonne de belles paroles, que tu donnes une parole pour édifier leur famille, pour édifier leur entourage. Je prie pour Pascal demain, quand il partage, Seigneur, que vraiment que l'onction de Dieu soit sur lui et qu'il y ait une parole qui va édifier, Seigneur, sa famille. Et pas juste dans son partage, mais dans tous les moments autour en parlant, Seigneur. Et donc, bénis-le, Seigneur. Et bénis toutes les autres personnes, Seigneur, qui sont ici, qui sont peut-être quelquefois dans des circonstances où ils ont été démolis. Et Seigneur, donne la guérison, là où les gens ont été démolis par des paroles. Je te demande de commencer à reconstruire des maisons. Et qu'il y ait un début d'édification dans toutes ces situations. Et donc, merci, Seigneur, pour ton amour. Au nom de Jésus. Amen.